Didaktik des langues étrangères.
Fremdsprachendidaktik.
Die Table Ronde de Fribourg.
Die Diskussionsrunden aus Freiburg.
Souhaite la bienvenue à tout le monde. Ça fait très plaisir de vous voir, de vous revoir ici dans cette grande salle. Elle est un peu grande. Nous sommes en train de planifier l'édition de l'année académique prochaine et nous allons déménager dans une salle un petit peu plus intime. Mais nous allons continuer l'idée du podcast. Mais en fait, cette salle, on l'a choisie parce qu'elle est très, elle se prête très bien pour la vidéo. Mais pour le podcast qu'on produit actuellement, en fait, dans une salle plus petite, ça irait très bien aussi. Donc voilà. Bienvenue. Je vais tout de suite passer la parole à la modératrice Alicia Cotard. Je tiens juste à dire que, en fait, normalement, on n'aimerait pas faire de l'hybride, parce qu'on n'aime pas l'hybride, on aime le présentiel ou en ligne. Mais Edina, elle est atteinte d'un mal de dos, je crois, assez carabiné. Elle ne peut que participer à distance, mais nous sommes très contents et très reconnaissants, Raphaël, que tu aies trouvé une solution pour quand même avoir Edina à bord. Donc Edina, salut, je te souhaite la bienvenue. Je souhaite la bienvenue à tout le monde et je passe directement la parole à Alicia Cotard qui va commencer la modération. Merci beaucoup.
Bonsoir, guten Abend allerseits. Wir heißen Sie alle herzlich willkommen zu der vierten Table Ronde dieses Jahres zum Thema La Didactique Extramuro, Linguistic Landscape und Multimodalität. Wir haben heute ExpertenInnen aus verschiedenen Bereichen eingeladen, um über diese Thematik zu diskutieren und uns einen tiefen Einblick zu gewähren. Als erstes möchten wir uns ModeratorInnen vorstellen. Mein Name ist Alicia Cotard. Ich arbeite zurzeit als Primarlehrerin in Zürich. Nebenbei studiere ich den Masterstudiengang Fremdsprachendidaktik an der Universität Fribourg. Ich freue mich sehr, Sie durch diesen Abend begleiten zu dürfen.
Bonsoir à tout le monde aussi de ma part. Je suis Giulia Berchio, collaboratrice scientifique à l'Institut de plurilinguisme et à la PH Graubünden. C'est un plaisir pour moi de partager cette table ronde avec Alicia et nos intervenantes. Et on a envie de s'y plonger dans cette discussion. On est juste désolé que Edina n'est pas avec nous. Donc, bon rétablissement. Gute Besserung, Edina. Et voilà, je commencerai un peu par présenter nos intervenantes. Je commence par Daniela, peut-être. Voilà. Daniela Kappler hat einen Abschluss in Ostasienwissenschaften und Didaktik der modernen Sprachen von der Universität Venedig, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in Tessin an der SUPSI, DFA, in den Bereichen Sprachdidaktik, zweisprachiger Spracherwerb, sozioemotionale Bildung und interkulturelle Bildung. Sie ist auch Autorin von Lehrmitteln, zuletzt für den Unterricht von Italienisch als Fremdsprachen im Kanton Uri. Sie leitet derzeit ein vom BAK unterstütztes Projekt mit der PH Graubünden und Schweiz zusammen zur Schaffung und Vermittlung von Liedern aus der italienischen Schweiz für die deutsche Schweiz und ist Mitglied des Projekts Ital Fabula zur Vermittlung von Bildbänden für den Unterricht der italienischen Sprache L2 und LS.
Wir haben jetzt gehört einige Male, dass Edina Krompak nicht vor Ort sein kann, aber es gibt natürlich noch anderes über sie zu erzählen. Edina Krompak leitet den Forschungsschwerpunkt Fachdidaktik der Sprachen an der Pädagogischen Hochschule Luzern und sie ist Lehrbeauftragte an der Universität Basel. Nach ihren Studien in Ungarn hat sie in 2020 an der Universität Zürich in Erziehungswissenschaften promoviert. Ihre aktuellen Forschungsschwerpunkte liegen in den folgenden Bereichen: Linguistic Landscape, im Bildungskontext, Sprache und Raum, Mehrsprachigkeit und Translanguaging, Multimodalität im Sprachen, Lernen und Lehren.
Et je vous présente Maud Le Breton est professeure à l'HEP Béjune. Elle y dirige le domaine de recherche sémiologie de l'activité éducative. Elle est titulaire d'un doctorat en anthropologie pour lequel elle a étudié les mécanismes de transmission de savoir dans les populations ne connaissant pas la culture de l'écrit. Ses recherches dans le champ de la formation et de l'éducation portent sur les approches anthroposémiotiques et sémiologiques des situations d'enseignement-apprentissage. Et ses recherches actuelles se centrent sur les contextes plurisémiotiques en didactique des langues et sur la signification par l'image.
Schließlich möchte ich noch Philipp Moser vorstellen. Philipp Moser hat französische und italienische Sprach- und Literaturwissenschaften an den Universitäten Bern und Toulouse studiert und anschließend in Soziolinguistik promoviert. Daneben war er an der Universität Bern in verschiedenen Assistenz- und Koordinationsstellen tätig. Heute arbeitet er hauptsächlich im Bereich Übersetzung. Die Linguistic Landscape ist Gegenstand der Dissertation, die 2020 unter dem Titel Linguistic Landscape als Spiegelbild von Sprachpolitik und Sprachdemografie erschienen ist. Herzlich willkommen. Und damit möchten wir auch schon zur ersten Frage dieses Abends überleiten. Comment définissez-vous les termes Linguistic Landscape et Multimodalité? Wie definieren Sie die Begriffe Linguistic Landscape und Multimodalität? Darf ich gerade dich bitten, Philipp?
Das kann ich gerne machen. Soll ich Französisch oder Deutsch? Gibt es da
das
Vorlieben,
was, wie du möchtest.
Wahrscheinlich abwechseln am besten. Die Definition der Linguistic Landscape, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Kontexte, wie man die definieren kann. Also ich beginne vielleicht mit der Definition, wie ich sie verwendet habe für mein Forschungsprojekt. Eine sehr eingeschränkte Definition der Linguistic Landscape als geschriebene Sprache im öffentlichen Raum eines bestimmten Territoriums zu einem bestimmten Zeitpunkt. Man kann diese Definition aber natürlich auch ausweiten, auch Zeichen allgemeiner Art einfließen lassen, berücksichtigen, gesprochene Sprache, die aufgenommen wurde zum Beispiel. Was aber für mich immer zentral ist, ist der Bezug der Sprache zu einem bestimmten Ort. Also ich würde die Linguistic Landscape als Gesamtheit der Sprachelemente bezeichnen, die an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit vorhanden sind. Und wichtig ist bei mir in meinem Ansatz, dass ich die Linguistic Landscape als Forschungsgegenstand, als Realität bezeichne, die betrachtet wird. Und dass ich nicht von Linguistic Landscape gesprochen habe bis jetzt, wenn ich die Linguistic Landscape Forschung gemeint habe. Also es sind diese Unterscheidung, die ich wichtig finde. Das vielleicht so als Anfang.
Daniela, möchtest du noch was dazu sagen?
Bonsoir. Donc, ma définition, c'est très proche avec la définition qui a été exposée par Philippe. Mais j'aimerais commencer avec le terme multimodal, parce que je trouve que ça apporte aussi une richesse au terme linguistic landscape. Parce que chez nous, dans la didactique, la multimodalité, c'est aussi ça représente tout ce qui est aussi dans les cinq sens qu'on entend, qu'on a la perception, donc visive, auditive, que c'est vraiment ça que Philippe vient d'exposer, d'exprimer, mais aussi les sens tactiles, le goût, l'odeur. Et même au niveau cognitif et social, donc ça, c'est avant de la langue. Et ce sont des impressions et des émotions qu'on perçoive, mais qu'on ne peut pas tout de suite représenter avec des mots. Et on vit en immersion, comme être humain, on vit en immersion dans la nature ou dans des espaces anthropiques et créés par les individus. Et on les absorbe encore avant qu'on peut les reproduire avec la langue. Et ça peut faire aussi des interprétations différentes des personnes et des individus, de ce qui est tangible et de ce qui ne l'est pas. Et des personnes qui sont présentes et des présentes quand ils sont absents physiquement. C'est une présence qu'on peut percevoir. Et ce que Philippe vient de dire, je le sens vraiment très fort, mais je pense que la multimodalité peut enrichir le linguistic landscape.
Merci beaucoup. Edina, hörst du uns?
Ja, bonsoir, guten Abend. Linguistic Landscape ist auch ein sehr dynamisch entwickeltes Feld und genauso dynamisch entwickelt sich die Definition von Linguistic Landscape. Wenn man diese Entwicklung anschaut, dann sieht man, dass die verschiedenen Autoren, Autorinnen Linguistic Landscape immer anders definiert haben. Während Landrin Boris am Anfang die geschriebene Sprache in den Mittelpunkt stellten, stellte Blumert auch die Users of the Space, also die Nutzerinnen und Nutzer des Raumes, in den Mittelpunkt und auch die Interaktion mit dem Zeichen. Das heißt, es geht nicht nur um das Zeichen, was wir sehen, das ist dieser allgemeine Begriff, dieses Sein, sondern wie reagieren wir auf dieses Zeichen? Und später wurde auch Linguistic Landscape immer multimodaler, das heißt nicht nur die geschriebene Sprache, sondern auch die hörbare Sprachen gehören auch zu Linguistic Landscape, dieses Soundscape. Und mittlerweile wird auch sozusagen dieser öffentliche Raum in Frage gestellt, weil es auch verschiedene sozusagen semi-öffentliche Räume gibt in der Linguistic Landscape, wie zum Beispiel schulische Räume oder auch private Räume, wo auch Linguistic Landscape untersucht wird.
Vielen Dank.
Bitte.
Maud, darf ich dich? Voulez-vous parler aussi?
Si, bonsoir. Alors, je dois avouer que ce concept de linguistic landscape ne m'est pas familier. Par contre, je manipule énormément la multimodalité. Puis, en préparant pour ce soir, je suis arrivée à la fin de ma réflexion en me demandant si finalement les deux n'allaient pas de pair et finalement j'avais de la peine à les dissocier. Moi, je manipule le concept de multimodalité en reprenant la conception anglo-saxonne que je prends chez Carl Jewitt, qui explique que comme aucune communication n'est monomodale par définition, on peut et on doit prendre en charge tout ce qui se passe dans le contexte de communication. Donc la multimodalité à l'anglo-saxonne, c'est à la fois une théorie, voilà, la communication est en soi multimodale par essence, c'est un terrain empirique, c'est-à-dire la prise de données, c'est même une méthodologie de prise de données. Et puis, finalement, c'est aussi une perspective qu'on va offrir en recherche en termes de restitution et de résultats. Le but, c'est vraiment de partir de la contextualisation de la fabrication de sens. En tout cas, c'est tel qu'ils le définissent et c'est comme ça que je le manipule.
Merci pour les élaborations. Jetzt haben Sie schon erklärt, einige Zusammenhänge zwischen der Linguistic Landscape und der Multimodalität. Wie sieht Ihre Linguistic Landscape aus im Zusammenhang mit der Definition, die Sie gegeben haben? Daniela?
Donc je vais essayer encore en français. Donc, comme j'ai dit avant, on est en immersion dans les deux domaines, si on peut les appeler comme ça. Et dans la vie professionnelle comme dans la vie personnelle. Dans la vie professionnelle, dans l'école ou bien dans l'université, on fait une expérience tout le temps, toute la journée. Et si on est conscient ou pas, on l'a fait. Et je trouve que aujourd'hui, même dans les social media, on est vraiment... moi, je suis comme bombardée avec une linguistic landscaping et dans le soundscaping qu'on a dit la professeure Edina Krampak. Et c'est dans le quotidien, dans les écoles, je trouve qu'elle a parlé de l'espace dans la salle de où il y a des matières scolaires avec les professeurs. C'est très intéressant quand on fait de l'observation pendant la recherche, comme le positionnement des personnes qui sont dans la salle, qui donnent des messages et des rôles qui sont des fois symétriques et des fois ils ne sont pas symétriques. Et je trouve aussi qu'il y a une grosse valeur interculturelle dans ces relations et dans ce rôle. Et quand on essaie de faire prendre conscience de ça aux professeurs pendant la formation ou avec les élèves pendant les observations et les dialogues après, comme ils ne sont pas vraiment conscientes de leur linguistic landscape qu'ils ont autour, et je trouve que ça devrait être vraiment partie aussi de l'enseignement. Mais ça, c'est un thème de la question qui vient après. Mais c'est tellement présent que c'est difficile de discerner tout le temps. Donc, beaucoup de choses se passent et on n'est pas vraiment conscient. Et dans mon quotidien, mais on essaye de le faire aussi dans l'enseignement. Moi, je l'essaye de faire avec les méthodes comme Espace Okonoi, qu'on a essayé de faire une déclination dans la didactique des langues.
Merci. Edina?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich unterrichte Linguistic Landscape seit mehreren Jahren an verschiedenen Hochschulen, an den pädagogischen Hochschulen, an der Universität Basel. Und oft kommt die Frage von den Studierenden nach meiner Einführung, ja, ist das dann alles Linguistic Landscape? Gehört alles zu Linguistic Landscape? Weil Linguistic Landscape nicht nur die Sprache beinhaltet, sondern auch die Semiotik. Und Semiotik kann natürlich sehr breit sein. Es gibt Forschungsstudien, die Fahnen untersuchen oder T-Shirts oder Sticker, aber auch Architektur oder Skulpturen gehören auch zum Linguistic Landscape. Wichtig ist für mich die Fragestellung, was möchten wir herausfinden durch diese Fragestellung? Was möchten wir durch unsere Fragestellung über diesen Raum, das denke ich, das wurde schon erwähnt, über diesen Raum erfahren, über diesen Quartier, über diese Stadt. Und aufgrund dieser Fragestellung können wir die semiotischen Aspekte der Sprache auch erkunden, erforschen und bestimmte Fragestellungen beantworten.
Herzlichen Dank. Maud.
Merci. Alors, je n'ai pas tout saisi, mais comme je n'enseigne pas les langues, j'amène en fait avec moi dans les didactiques des langues le visuel et l'impact que le visuel a sur l'enseignement des langues. Donc en ça, voilà, je travaille, je pense, pas loin de tout ce qui vient d'être dit, puisque les études montrent que lorsqu'on met du visuel en présence de texte, eh bien, on est dans ce qu'on appelle une sémiose assez complexe, puisqu'il y a une co-construction du sens entre les deux médiums qui sont mis en présence. Et c'est ce que je fais en formation des enseignants. Donc on apprend à gérer le visuel, l'image en l'occurrence, pendant l'enseignement des langues. L'impact de l'image sur l'enseignement des langues, sur la réception des langues, etc.
Merci. Philippe ?
Alors c'est effectivement une question très difficile. J'aimerais peut-être revenir à deux choses qui ont été dites avant de répondre à la question. Les rapports, peut-être les différences entre la multimodalité et le linguistic landscape, moi je comprends la multimodalité comme liée à un contexte surtout avant que c'est lié à un lieu précis. Tandis que le linguistic landscape, donc landscape, c'est pour moi toujours en relation avec un endroit, avec un lieu qu'on peut définir ou qu'il faut définir avant de l'étudier. Ça veut dire que la multimodalité se trouve dans le contexte du linguistic landscape, même pas seulement quand on considère le linguistic landscape comme quand on intègre aussi la langue parlée, enregistrée par exemple dans le linguistic landscape, mais même si on considère uniquement la langue écrite, parce que même dans ce contexte, on a la représentation graphique, visuelle de la langue qui apporte déjà un élément de multimodalité en soi. Donc ceci dit, la linguistic landscape est pour moi avant tout lié à un endroit, donc il ne peut pas y avoir ma propre linguistic landscape, mais plutôt le linguistic landscape qui serait propre à un lieu, au lieu où je me trouve, qui change donc selon ma façon de bouger dans ma vie quotidienne ou en général. Donc c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre en définissant la linguistic landscape qui serait la mienne propre à moi. Donc c'est peut-être ce que je peux apporter à cette question de mon point de vue.
Merci beaucoup. Jetzt haben wir auch schon das Wort Semiotik einige Male gehört. Und können Sie es nochmals genauer erklären? Was ist Ihrer Meinung nach oder gibt es Vorteile, wenn man Sprache als semiotisches System anschaut oder darüber als semiotisches System denkt? Und weshalb? Vielleicht Edina gerade. Sie haben, also du hast das ja vorher schon erwähnt.
Ja. Ja, Sprache ist Teil der Semiotik und es ist auch wichtig, denke ich, beim Sprachenlernen, dass wir uns nicht nur auf die geschriebene und hörbare Sprache begrenzen, sondern auch Sprache als soziale Praxis wahrnehmen, was auch in der Soziolinguistik eine Definition der Sprache eine soziale Praxis ist, die auch eine lokale Praxis sein kann und verändert sich in verschiedenen sozialen Kontexten. Ja, also ich denke, das hat ein großes Potenzial, dass man wirklich diesen Begriff Sprache auch erweitert und dass man auch in diese Richtung weiterdenkt, auch nicht nur beim Sprachenlernen, sondern auch im Sprachunterricht. Dass man auch diese Aspekte berücksichtigt.
Vielen Dank. Maud, veux-tu ajouter?
Merci. Peut-être je reviens un petit moment sur ce qu'a dit mon collègue. Je rejoins complètement le côté culturel du linguistic landscape par rapport à la multimodalité qui quand même reconnaît la notion de ressources sémiotiques qui, elles, sont culturelles aussi par définition. Donc peut-être là, il y a un point d'accroche. Moi, je me suis posé la question, dans cette question qu'on traite là, de quelle définition du langage, en fait, parce que là, on retrouve assez vite les limites entre l'école américaine et l'école française, pour moi, puisque, comme je le disais tout à l'heure, aucune communication n'étant monomodale, tout est langage, enfin, ou en tout cas, tout est langage situé, c'est-à-dire qu'on va devoir prendre en considération le contexte de communication. Et puis, ces ressources sémiotiques dont je parlais, elles sont à la fois, en tout cas en formation, des outils qu'on va utiliser. Certains parlent de filtres même, mais elles sont autant d'obstacles. C'est-à-dire que ce sont à la fois ce qu'on va essayer de dissocier dans l'interprétation qui est faite par les étudiants notamment ou par les élèves, mais également voilà, les obstacles que ça représente dans certaines situations. Et puis, ça m'évoque en tout cas le rôle du didacticien qui, pour moi, quand même, est à l'articulation des savoirs savants et des individus, et qui doit s'approprier à la fois le sens individuel des individus qu'il a devant lui, mais le sens collectif, et qui est dans ce champ de tension permanent entre ce collectif qu'il a à former et en même temps ce sens individuel qui, lui, peut être très variable avec la prise en compte de cette multimodalité.
Merci beaucoup. Daniela?
Ja, eben als, ich versuche es jetzt auf Deutsch, wenn man eben von der Forschung oder von den Theorien ausgeht, ist es in meinem Fall dann auch immer, man geht auch von den Schülern aus, also learner-centered. Und in diesem Fall ist das wirklich sehr wichtig, wie vorhin Maud gesagt hat, diese Co-Construction du Sens. Und in dieser Hinsicht sind sicher eben, ist diese Konstruktion wirklich, muss progressiv sein. Weil einerseits, wie ich schon gesagt habe, sind wir jetzt wirklich innerhalb all dieser Linguistik-Landscape und wie man das auch angehen kann, wenn man sehr jung ist und wenn man in questa età evolutiva, ich kann das jetzt wirklich nicht auf Deutsch oder auf Französisch ausdrücken, aber dass man wirklich das progressiv angehen kann mit den Schülern, weil sie sind wirklich so in einem Kontext drin, auch wenn es jetzt in einem Moment ist, in einem Ort, dass sie das wirklich aufbauen können. Und das sind wirklich die Lehrpersonen und die Lehrmittel und sehr wichtig, wie auch eben das ganze Plan d'étude, dass man da auch wirklich Unterstützung für sie geben kann. Und das heißt aber auch spiegelweise mit den Lehrpersonen. Also ja, ich denke mal, learner-centered, das ist sehr wichtig. Die Progressivität, dass man das aufbauen kann. Ja.
Merci. Philipp?
Alors, je crois que le langage est en soi un système sémiotique complexe. Donc, je ne comprends pas tout à fait peut-être la question. Les avantages à penser le langage comme système sémiotique complexe pour l'enseignement de la langue, c'est penser dans ce sens. Ja, ich denke, das hat durchaus, das ist eine Voraussetzung vielleicht sogar, dass man die Sprache auch immer im Zusammenhang eben sieht. Aber ich bin hier wirklich eher auf die Einschätzungen der Kolleginnen angewiesen, die mit Didaktik sich viel mehr befasst haben als ich. Aber ich finde es sozusagen von außen gesehen auf jeden Fall ein Vorteil, wenn man die Sprache nicht als etwas Isoliertes, sondern eben immer im Kontext betrachtet. Ja.
Vielen Dank für euer Input. Eigentlich, avant de passer aux aspects plus pratiques liés à la thématique de ce soir, j'aimerais beaucoup vous demander votre avis par rapport à une question. Alors, plus vous parliez, plus j'avais l'impression que je me détachais de la langue, comme je l'ai toujours entendu, la langue comme moyen pour s'exprimer. Donc, je me détachais un peu de cette idée de la langue et d'un système, disons, verbocentré, quand on est verbocentré, je pense que je l'ai emprunté d'un article de mode. Voilà, donc cette idée que si on apprend une langue, il faut regarder la langue, l'objet langue, et l'explorer et chercher de comprendre comment il fonctionne pour pouvoir après parler. Mais ici, on n'est pas en train de faire que ça, je pense, ce soir. Donc, on est en train de voir le langage d'une autre perspective. Et dans quelle mesure, je ne sais pas, peut-être je me trompe, mais voilà, vous me direz si ce que je dis est vrai ou pas, et si c'est vrai ce que je dis, est-ce que vous pourriez un peu nous dire combien vous pensez que cette idée de langage soit déjà appliquée dans la didactique et dans la recherche aussi? Et quelles sont les conséquences de penser au langage, conséquences concrètes de penser à la langue de cette manière? Si, voilà. Peut-être Maud.
Merci. Alors moi, j'ai un obstacle majeur, c'est le cloisonnement disciplinaire. Voilà, des plans d'études, des modélisations didactiques et autres supports. Après, les pratiques communicationnelles, elles nous imposent de partir dans la multimodalité. On a très longtemps pu se contenter de la langue, voilà, avec les objets langagiers, mais les pratiques de communication qui sont permises par les moyens modernes, qui sont, enfin, voilà, iconotextuelles, on est envahi d'images, on est envahi de sons en même temps, on n'a pas le choix, on est obligé de partir dans cette multimodalité. Ça a de la peine à arriver à l'intérieur de la classe parce que pour moi, il y a vraiment un obstacle dans le cloisonnement des disciplines scolaires. Mais chez les généralistes avec qui je travaille, on commence à le faire de manière transversale en prenant des objets comme la littérature jeunesse, qui sont par eux-mêmes déjà multimodaux. Mais les collègues de didactique du français, en l'occurrence, disent combien ils sont très, très freinés, n'ont pas de modèle didactique qu'ils arrivent à mettre parce qu'on a cette présence de plusieurs médiums à l'intérieur des supports.
Donc tu penses que c'est des modèles théoriques qui manquent à la base ou qui n'arrivent pas aux enseignantes?
Je ne sais pas dans votre contexte, mais dans le mien, voilà, les enseignants ont à disposition des prescrits, des textes normatifs, des modélisations didactiques, les nouveaux moyens d'enseignement notamment là, qui arrivent, et se basent là-dessus. Dans ces modélisations didactiques, on est quand même en présence d'objets langagiers, c'est normal, on est en didactique des langues ou on est en didactique du français, et on ne sait pas où placer le reste. On ne sait pas quoi faire quand il y a une image, on ne sait pas quoi faire quand il y a de la vidéo. Et pour l'instant, ça résiste aux modélisations didactiques. Donc, on y travaille, mais pour moi, c'est encore quelque chose qui n'est pas là.
Okay. Mais, par contre, il y a des livres qui sont en train aussi d'être comme développés, qui aimeraient valoriser l'image aussi. Je pense, Daniela, non?
Oui, on a travaillé dans ce sens de la multimodalité, ouais. Et l'éducation aux médias et à l'écoute, et donc dans ce cas de multimodalité. Mais c'est vrai, je trouve que pour moi, la salle de classe ou bien les maires, ils sont un peu stretti, comme je peux dire. Pour moi, ce serait vraiment le désir que, il y aura l'approche que s'appelle CLIL, probablement vous le connaissez, Content Language Integrated Learning, qui est peut-être je ne peux pas dire le plus proche de Linguistic Landscape, mais on pourrait la biner. Et surtout en sortant de la salle de classe, et d'analyser avec les élèves ce qu'ils entourent, ou bien rester dans la salle de classe et de comprendre ce qu'il y a vraiment dans une multimodalité. Et je pense à un cas vraiment extrême où on a fait cette co-construction du sens et du langage. C'est dans le tremblement de terre en Italie. Qu'est-ce qu'on fait quand le linguistic landscape disparaisse? Donc, qu'est-ce qu'on fait comme école, comme enseignante, comme la communauté qui s'approche avec un territoire qui n'est plus là? Et ils avaient fait beaucoup de projets et de recherches, et ça m'a vraiment très motivée à penser à pas seulement au CLIL qui est dehors dans un linguistic landscape qui est émergé, mais aussi dans la interdisciplinarité qui est vraiment très présente qu'on a. Et ça manque dans l'école. Et d'un côté, si on peut penser au CLIL interdisciplinaire comme on a fait avec Aspasso con noi, et puis je pense, non, on devrait sortir et faire des autres expériences.
Juste une petite parenthèse. Aspasso con noi est un livre pour l'apprentissage.
C'est une méthode pour l'italien.
Pour l'italien.
Et c'est interdisciplinaire, interculturel et tout ça, mais ça, c'est pas très facile pour les enseignants de l'appliquer, avec, même s'il y a un linguistic landscape qui est présent d'un territoire très, très défini, qui est le Tessin et des parties du Tessin, mais c'est l'intérêt de savoir quels mots sont les principal que les élèves doivent savoir. Donc, c'est vraiment, vraiment très limité, même quand on aimerait sortir de ces, on peut dire, cette façon d'enseigner, surtout basée sur les mots. Et bon, et moi, je pars aussi de dire, on va pas faire seulement un CLIL interculturel, interdisciplinaire, mais on devrait sortir pour vraiment vivre le linguistic landscape dans une multimodalité, mais dans une idée vraiment de progression. Pas tous ensemble qui est. C'est très dynamique, la situation c'est très dynamique. Ça, le tremblement de terre, c'était vraiment une chose assez extrême. Mais dans la. Ouais, c'est la possibilité de vivre aussi le dynamisme que le professeur Campac vient de.
Et Dina, ouais, Dina ouais. Aborder. Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'on peut juste. Merci.
Si c'était ça la question, parce que juste. Oui, c'est d'autres choses par association.
Peut-être. Ouais. Parfait. À la question de ce verbocentrisme, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose, Philippe? Par rapport à ça, pour la recherche, pour l'écoute.
Pour la recherche, dans le sens que le linguistic landscape se limite dans beaucoup de cas à la langue écrite, voire parlée, sans considérer les signes dans ce sens, tu entends
Non, c'est plutôt qu'on est en train de se détacher
de ça. De se détacher de ça, oui, justement.
Donc, c'est un peu plus, on devient un peu plus visio-centré. C'est juste ça. Mm-hmm, est-ce qu'on est en train de devenir un peu comme ça? Et quelles sont les conséquences pour la recherche?
Alors pour moi, j'ai toujours distingué entre le semiotic landscape et le linguistic landscape. Et puis le linguistic landscape, ça serait une partie du semiotic landscape, donc ensemble avec les images et même ce qu'on avait dit, l'architecture, etc. D'où ce qui est le signe dans un sens très large, dans un certain espace. Mais moi, ce qui m'intéressait surtout, c'est de voir ça, même à l'intérieur du linguistic landscape, de voir comment la langue est représenter la langue dans le sens verbo-centré, comme on a dit, comment elle est représentée dans ce contexte particulier, donc notamment, tout simplement, quelle couleur est choisie pour écrire tel ou tel mot, est-ce qu'on voit des différences entre, si vous avez plusieurs langues différentes, entre la représentation graphique, entre... Enfin, la représentation graphique des deux versions en différentes langues, etc. C'est sur ces aspects que moi j'ai concentré ma recherche et je trouve qu'il y a encore beaucoup à dire dans ce domaine. Donc, ça serait évidemment, c'est très intéressant d'élargir, mais je trouve aussi qu'on devrait peut-être pas complètement perdre aussi cette première définition restreinte dans la recherche future, mais tout en s'ouvrant évidemment. des définitions beaucoup plus larges. D'ailleurs, non seulement, moi je suis tout à fait d'accord qu'il ne s'agit pas du tout seulement de l'espace public. Ça, c'est un choix qu'on a souvent fait parce que ça correspondait aux questions auxquelles on essayait de répondre, mais on peut très bien analyser le linguistic ou semiotic landscape d'un espace privé ou même d'un espace virtuel, comme les réseaux sociaux. Donc, c'est tout à fait, il y a des possibilités d'ouvrir et de comprendre la notion de lieu dans un sens beaucoup plus large que d'un espace public concret.
Ok, merci. Edina, bist du noch da? Nicht da. Doch, doch. Edina, möchtest du etwas noch hinzufügen? Was diese... Ja,
ja, vielleicht könntest du mich überleiten.
Genau, ist einfach, genau, das war ein bisschen, da hatte ich ein paar Gedanken über, als ihr gesprochen habt, hatte ich ein bisschen die Idee, ja, aber die Sprache... Wie als Subjekt, wie ich das immer gedacht habe, Sprache, also Wörter, wir entfernen uns von diesem Konzept ein bisschen. Und ich wollte genau fragen, was ihr darüber denkt und welche Konsequenzen hat dann diese, nicht neue, aber also diese andere Perspektive. Ja. Für Forschung, also in diesem Fall hat genau Philipp über die Konsequenzen für die Forschung und Daniela und Maud eher über die Konsequenzen für die Didaktik gesprochen. Vielleicht möchtest du was über Forschung hinzufügen?
Ja, also die Konsequenzen, denke ich, dass man Sprache auch, eben das Thema auch Multimodalität, multimodal sieht, Sprache auch als semiotisches System sieht, komplexes semiotisches System sieht, auch als Beispiel, wenn man Textnachrichten anschaut und untersucht, wie kommunizieren Jugendliche oder Erwachsene. Es ist zunehmend eine multimodale Kommunikation. Also nicht nur die Benutzung von Emojis, sondern auch, dass man auf eine Frage, wo bist du, antwortet man mit einem Google Map. Das ist auch multimodal. Das heißt, unsere Kommunikation wurde multimodaler und das zeigt sich auch in dieser Sprachverwendung. Und ich denke, durch die Linguistic Landscape kann die Forschung auch diese Aspekte der Sprache und der Kommunikation besser erforschen und kann auch die Schüler, Schülerinnen darauf aufmerksam machen, dass Sprache eben nicht nur diese geschriebene und hörbare Sprache ist, sondern auch ein komplexes System. Und dieses komplexe System zeigt auch soziale Praktiken. Kultur wurde auch erwähnt, dass es auch kulturell geprägt ist. Es sieht anders aus in verschiedenen Ländern, aber nicht nur in verschiedenen Ländern, sondern auch in verschiedenen sozialen Kontexten, auch innerhalb eines Landes. Und ich denke, die sind alle Potenziale, ein großes Potenzial von Linguistic Landscape, dass man auch nicht nur in der Forschung, sondern auch beim Sprachenlernen verwenden kann.
Okay, vielen Dank. Nur ganz kurz. Ja, du sprichst über Potenzial, aber kann es sein, dass dieses Potenzial ist eher wie kann ich das sagen, oder aus der Seite der Forschende, man sieht immer wie ein Potenzial, aber wie, also du hast auch darüber geforscht, also über wie anwendbar sind solche neue Perspektiven in der Schule. Et Maud, elle a dit que die Didaktikerinnen, les didacticiens, il semble qu'ils n'ont pas vraiment encore les moyens pour travailler avec cette...
Oui, peut-être, voilà. peut-être que là, il faut distinguer la didactique de la langue première des didactiques des langues autres, parce que je pense que vous êtes beaucoup plus avancé en termes d'enseignement des langues pas premières, en termes de voilà, culture, contexte culturel, etc. Où là, il y a un petit peu plus de matière. En didactique de la langue première, c'est clairement un manque de modélisation didactique. Et puis, je rejoins aussi ce qui est dit, c'est que ça reste un apprentissage de la langue qui est visée, donc c'est la langue qui doit être visée. Et comment est-ce qu'on enseigne la langue en prenant en charge ce qui n'est pas de la langue ? Donc il y a aussi une petite tension là qui fait qu'on doit garder le focus de la langue parce que c'est l'entrée qu'on a choisie et pas en perdre en fait l'essence. Voilà.
Ouais. Merci beaucoup. Edina, Asso. Hast du hier gehört?
Also über die Didaktik von Linguistic Landscape, also wie man Linguistic Landscape didaktisieren kann.
Oder ob es wirklich möglich ist, das zu didaktisieren. Ob du jetzt auf der Basis deiner Erfahrung bis jetzt denkst du, genau, dass es Modelle fehlen oder dass es... wirklich, dass dieses Potenzial wirklich konkret werden kann.
Ja, also ich sehe Linguistic Landscape als ein Ansatz, wie man Sprachen lernen kann. Und die Didaktisierung sozusagen ist noch nicht erfolgt. Linguistic Landscape wurde in den letzten Jahren erst entdeckt für Sprachenlernen. Zuerst hat man verschiedene Forschungsprojekte mit Studierenden durchgeführt und jetzt vermehrt werden Forschungsprojekte auch mit Schülerinnen und Schülern durchgeführt und auch angeschaut, inwieweit kann man Linguistic Landscape als pädagogisches Tool einsetzen. Über die Effekte von Linguistic Landscape wurde noch nicht geforscht. Das heißt, bringt das überhaupt für Sprachenlernen? Aber ich würde das gar nicht in Frage stellen. Für mich ist wirklich ein Ansatz, das sehr großes Potenzial mit sich bringt, auch für die Erforschung der Mehrsprachigkeit oder Wahrnehmung und Erlernen von Mehrsprachigkeit, aber auch Transdisziplinarität wurde auch erwähnt, auch für nachhaltige sprachliche Bildung, dass man auch zum Beispiel Minoritätensprachen anschaut in der Linguistic Landscape, aber auch Demokratiebildung, wenn man die Wahlplakate untersucht. Also es gibt sehr viele Verbindungen zu anderen Disziplinen, die auch nicht nur die Erforschung der Sprache ermöglichen, sondern auch diese Transdisziplinarität fördern.
Okay. Danke, Dina.
Wir haben jetzt ganz viel zur Forschung gehört und um kurz noch etwas genauer darauf einzugehen, welche Methoden werden denn in der Forschung zu Linguistic Landscape und Multimodalität gebraucht? Quelles sont les méthodes utilisées dans la recherche et le linguistic landscape? Philipp, bitte.
Ja, ich kann vielleicht einfach auf die Methoden eingehen, die ich selbst umgesetzt habe für die Erforschung der Linguistic Landscape in meinem Projekt. Das ist eine eigentlich sehr konkreter Ansatz. Da geht es ganz grundlegend zuerst darum, ein bestimmtes Territorium auszuwählen, was man wirklich analysieren will, dann zu entscheiden, was innerhalb dieses Territoriums, dieses Gebietes erhoben werden soll. In meinem Fall war es dann eben die geschriebene Sprache, nur die geschriebene Sprache. Wie diese erhobenen Elemente dann eingeordnet werden, also ich habe dann verschiedene in einem klaren, einem klar definierten Vorgehen eigentlich verschiedene Analyseeinheiten dann definiert, was schaue ich zusammen an, also welche Texte werden zusammen angeschaut, diese Einheiten dann eingeordnet nach bestimmten Kriterien, eben zum Beispiel, welche Sprachen sind vorhanden, sind es ein- oder mehrsprachige Einheiten, wie sind die Sprachen, wenn es denn mehrsprachige Einheiten sind, im Kontakt miteinander. Und bin dann so zu einer Sammlung, zu einer Datenerhebung gelangt, die dann die Grundlage war für weitere Untersuchungen, wo ich dann zum Schluss als Beispiel habe angeben können, wie viele Einheiten in der Stadt Murten oder Fribourg zum Beispiel Französisch oder Deutsch enthalten, wie viele davon sind mehrsprachig, und dann so eigentlich eine Bestandsaufnahme der Linguistic Landscape im Sinne der geschriebenen Sprache im öffentlichen Raum vorlegen konnte, die dann ganz einfach eine Grundlage sein kann für weitere Forschungen, wenn man das Ganze dann eben im Zusammenhang mit der Sprachdemografie, mit der Sprachpolitik dann betrachtet und untersucht, wie die Beziehungen zwischen diesen Gegebenheiten sein können. Gleichzeitig habe ich dann einzelne ausgewählte Elemente, einzelne Einheiten auch qualitativ dann genauer betrachtet und mir dann auch die Fragen nach der Autorschaft, nach der Übersetzung, nach der Übersetzungsrichtung dann auch gestellt, also detaillierte Fragen zum Kontakt der verschiedenen Sprachen in diesem bestimmten Kontext, die dann nur für eine Auswahl der erhobenen Elemente möglich war, weil das sonst ganz einfach den Rahmen gesprengt hätte. Und das ist eben, wie gesagt, ein sehr frühes Beispiel, eigentlich ein sehr eingeschränktes Beispiel der Linguistic Landscape Definition, das ich erforscht habe. Es gibt dann natürlich, wie wir es gesehen haben, in der Semiotic Landscape weit offenere Herangehensweisen, denen viel mehr auf die Multimodalität dann noch eingegangen wird. Das ist dann aber ein Ansatz, den ich selbst jetzt nicht verfolgt habe, der aber auf jeden Fall noch sehr viel Potenzial hat.
Vielen Dank. Edina, möchtest du noch ergänzen?
Ja, gerne. Also wie wir schon gehört haben, die quantitative Ansätze sind auch sehr verbreitet in der Erforschung von Linguistic Landscape, aber vermehrt werden auch qualitative Ansätze eingesetzt, wie zum Beispiel ethnografische Methoden, dass man einen bestimmten Raum, einen bestimmten Quartier mehrere Jahre untersucht, wie zum Beispiel die schöne Monographie von Blumert. Er hat einen super diversen Quartier erforscht, wo er auch gelebt hat in der Nähe, und hat durch diese ethnografische Beobachtung und ethnografische Gespräche auch so ein schönes Panoramabild über dieses Gebiet, über diesen Raum gegeben. Ich habe selber sehr oft mit partizipativen Methoden gearbeitet. Das heißt, ich habe die Teilnehmenden gebeten, diese Fotos selber zu machen, auch über ihre privaten Räumen, also Linguistic Homescape, dass sie über sprachliche Zeichen und semiotische Zeichen Fotos machen und diese erklären, warum sie das ausgewählt haben, warum war das wichtig für sie. Weil wenn man als Forschende unterwegs ist, dann haben wir diese eigene Forscherbrille. Wir wählen diese Zeichen aus. Und natürlich, das hängt von unserer Fragestellung, aber wenn wir möchten, diese Nutzerinnen und Nutzer des Raumes beforschen, dann sollten wir ihnen auch ermöglichen, dass sie diese Zeichen auswählen und ihre Wahl begründen und erklären.
Vielen Dank. Daniela, möchtest du etwas dazu sagen?
Ja, also wir versuchen das direkt in der Ausbildung oder Weiterbildung dann umzusetzen, was jetzt zum Beispiel auch Philipp und Edina gesagt haben. Wir haben das im Austausch gemacht mit Studenten, die zum Beispiel zu uns gekommen sind, und wir haben ihnen eine Tasche signifikativ sucht zu geben, und die sie dann in im Rahmen von Locarno ausgeübt haben. Und Wichtig war es dann auch wirklich im Austausch mit unseren Studenten. Das war dann noch ein Problem der Nummern, weil die gekommen sind, waren 20 und die da waren, waren 100. Aber wir haben es versucht, wirklich dies dann eben auch im Austausch, diese verschiedenen Interpretationen vom Linguistic Landscape dann auch noch auszudiskutieren und die Interpretationen zu verstehen. Und das ist sehr spannend. Und auch wie wir zum Beispiel hier leben, dass zum Beispiel die englische Dominanz nicht so sehen. Wobei, wenn man vom Außen kommt und sagt, ah, das ist ja auch Englisch hier, oder es ist sehr viel Deutsch vorhanden, und da, ja, dann ist so ein Raising Awareness auch von unseren Studierenden, die dann das auch anders, ihr eigenes Linguistic Landscape anders anschauen. Und ja, und das hat dann wirklich Auswirkungen, ich hoffe, dann auch im Unterricht, ja, dass dann das vielleicht auch umgesetzt wird. Dann in, genau.
Schön, vielen Dank, Emut.
Alors, beaucoup de choses ont été dites. Dans les méthodes, moi, je reprends les méthodes qui sont posées par le concept de multimodalité et qui s'attachent aux ressources sémiotiques à disposition. C'est-à-dire que quand on va étudier l'interprétation chez quelqu'un ou chez quelques-uns, on va aller interroger les ressources sémiotiques qui ont été mises à sa disposition. La matérialité que recouvrent ces ressources sémiotiques, le potentiel qu'elles ont dans la culture donnée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on aurait pu en dire de plus, si c'est une image, par exemple. Et puis, ensuite, on va s'intéresser aux relations qu'il y a entre ces différentes ressources sémiotiques. En tout cas, c'est avec ces outils-là que je mène des recherches. Peut-être encore une précision, c'est que la multimodalité anglo-saxonne, elle repose sur la linguistique fonctionnelle de Hallyday, qui reconnaît à toute forme de langage trois métafonctions. Et puis c'est aussi un ordre avec lequel j'analyse en tout cas les données de mes recherches, en considérant d'abord... En anglais, c'est ideational. Enfin, voilà. En français, j'ai de la peine. Mais on peut parler d'idéationnel, c'est-à-dire qu'on va cette métafonction idéationnelle qui s'intéresse aux formes de base dans une ressource sémiotique. Ensuite, on va s'intéresser à comment ces formes de base interagissent avec la personne qui est mise en contact. Puis enfin, comment tout ça prend sens ensemble dans un contexte donné.
Merci Maud. Voilà, alors il semble, sur la base de vos expériences, qu'on peut faire de la recherche sur le Linguistic Landscape, sur la multimodalité, qu'on peut aussi essayer de mettre en place le Linguistic Landscape et la multimodalité dans les classes. Et il y a parfois des problématiques qui peuvent, qui doivent être gérées. Nous, on a trouvé un article. Non, parce que c'est pas que... Ouais, on a des signes et tout est parfait. Non, il faut juste prendre les signes, les décrire, les interpréter. Il y a parfois des signes qu'il faut faire attention, avec lesquels il faut faire attention. Et avec Alice, on a justement trouvé... Voilà.
Genau, wir haben eine Studie gefunden, die ist von Guowen Zhang und Feng Xie. Und der Titel heißt, Is Poor English in Linguistic Landscape Useful for EFL Teaching and Learning? Perspectives of EFL Teachers in China. In dieser Studie wurde erwähnt, dass LL auch oft kritisiert wird, da Sprachfehler auftreten könnten oder nicht standardisierte Sprache verwendet wird. Da Standardsprache als Ideologie auch heute noch an vielen Orten angestrebt wird, kritisierten Lehrpersonen in China Chinesisch-Englisch in der Öffentlichkeit. Was ist eure Meinung dazu? Vielleicht, Edina, möchtest du?
Parce qu'on avait dit qu'on était plus verbocentré, mais ici on est très verbocentré, non? On dirait. Et comment est-ce qu'on gère ça? Wie können wir damit umgehen? Entschuldigung, Edina.
Ja, die sind ganz spannende Fragen, weil man durch diese Fragen kann man auch eben Social Justice auch untersuchen, Sprachenhierarchien, Sprachgebrauch, auch schon mal diese Welcome-Zeichen, die man überall sieht, wie wird das dargestellt, welche Sprachen kommen dort vor, welche Sprache kommt zuerst. Das zeigt auch, sagt auch sehr viel über den Raum, wo wir uns befinden. Und durch diese Fragestellungen kann man auch wirklich sprachliche Hierarchien auch kritisch anzuschauen, auch die Lingua Franca-Funktion von Englisch auch anschauen. Also es gibt solche Fragen, die man diskutieren kann, die über das Sprachlernen hinausgeht und führt in Richtung kritisches Denken, aber auch socially responsible language education oder sustainable language education. Es führt auch wirklich in diese Richtung.
Wer möchte etwas dazu sagen oder ergänzen vielleicht zu, was Edina gesagt hat? Daniela?
Ja, ich hatte jetzt andere, also ja, noch weiterführende Gedanken, dass es eben diese Studie auch in China gemacht wurde. Aber allgemein, man weiß eben, dell'impoverimento dell'inglese generalizzato, also dass das die Sprache dann, wenn sie auch ein anderes Territorium dann so wie ich sage, conquistare, also che va a conquérir le territoire, il y a la richesse disparaisse. Mais c'est intéressant que en Chine, on a fait avec la langue chinoise et l'écriture chinoise, on a essayé avec des signes sémiotiques, parce que les caractères chinois sont déjà des signes sémiotiques différents de l'alphabet, donc c'est ça. Et il y a eu des graphiques qui ont essayé dans l'intention de favoriser l'apprentissage de ces caractères, de les de les changer dans un autre symbole ou dans un autre langage sémiotique. Et c'était un pot-pourri. On n'a pas vraiment bien compris pourquoi ils ont fait ça, parce que les premiers caractères chinois, ils sont des pictogrammes qui ont déjà une leur construction. Donc, en les changeant, on pensait, OK, maintenant, dans une multimodalité aussi, on les a reformulés et publiés comme ça. Ça, pour moi, c'était un peu un choc, parce que ça pas eu le, c'était pas le sens. Tu peux prendre les pictogrammes et les analyser, et les enseigner et les apprendre. Donc, c'était une façon de interpréter interprétation moderne dans une approche sémiotique que j'ai pas encore vraiment compris, mais c'est comme un impoverimento de la lingua, non? Et bon, c'est dans Espace Conoy, on a aussi essayé avec les émoticônes et tout ça, avec le langage des SMS, comme ça. Et on voit si c'est vraiment la richesse de la langue qui va être transmise, ou bien c'est des symboles qui évoquent vraiment ce terme, le sens du terme, ou d'une phrase, d'une expression linguistique. Donc on peut faire attention, on devrait faire attention à ça aussi quand on veut changer ou proposer des nouvelles choses dans un autre langage, dans un autre territoire. Ça risque de faire un petit peu de pot-pourri. Voilà, je ne sais pas si c'était une association d'une question qui est venue maintenant, donc je n'ai pas complètement fait toute la réflexion de zéro à
Ja, nein, vielen Dank. Vielleicht können wir uns auch überlegen, wie es bei uns vor Ort ist, weil in dem Sinn kann man ja auch sagen, also diese Vorstellung oder die Ideologie von Standardsprache ist ja auch bei uns sehr weit verbreitet und ob das nicht eben eine Schwierigkeit darstellen kann. Jetzt aus meiner Perspektive, ich arbeite als Lehrerin auf der Primarstufe, und wenn ich das jetzt gegenüber Eltern beispielsweise oder meinen Teamkollegen erklären müsste, wie man das rechtfertigen kann oder wie man, wenn diese Kritik, dieser Punkt oder mit der Standardsprache, wenn das kommt, wie man darauf reagieren kann, ist vielleicht, also wie kann man diese Kritik, kann man auch hier, denke ich, anwenden, also findet hier auch Anwendung.
Ich kann vielleicht etwas aus meinen Erfahrungen ergänzen. Die Standardsprache in den Linguistic Landscapes, die ich hier angeschaut habe, ist doch eigentlich stark vertreten. Also ich würde doch sagen, dass die Mehrheit der Einheiten, die ich untersucht habe, doch schon standardsprachlich eigentlich sind. Natürlich ist das nicht ausschließlich. Es gibt ganz klar dann auch Sprachgebrauch, der dann eben nicht dem Standard entspricht. Und das gehört dann eben auch einfach zu der Realität des Linguistic Landscape und kann dann nicht einfach ausgeblendet werden, denke ich, wenn man die Linguistic Landscape in der Didaktik nutzen will. Aber dass man vielleicht das dann eben auch thematisiert, dass sich die Sprache an den Kontext eben anpasst und vielleicht auch ein nicht standardisierter, vielleicht für kreativer Gebrauch der Sprache gefördert wird in der Linguistic Landscape, der dann ein bestimmtes Ziel vielleicht auch verfolgt. Und ich würde hier auch nicht von einer Verarmung der Sprache an sich sprechen wollen, sondern eigentlich von einer Anpassung der Sprache an eine bestimmte Gegebenheit in einem bestimmten Zeitpunkt. Und das gehört dann eigentlich für mich auch eher sogar zum Reichtum einer Sprache, dass sie eben sich so verändern kann und verändert. Man muss sich natürlich bewusst sein, dass es diese Unterschiede dann gibt, natürlich zwischen den standardisierten und nicht standardisierten Verwendungen. Ja.
Danke, Philipp. Jetzt vielleicht die allerletzte Frage, sehr kurz. Jetzt unabhängig davon, welches Zeichen wir schauen, denkt ihr jetzt in einem didaktischen Kontext, wie denkt ihr, dass also welche Kompetenzen werden die Lehrpersonen evaluieren? Werden sich die Kompetenzen ändern? Also neue Kompetenzen müssen evaluiert werden. Gibt es schon Parameter, um diese neuen Kompetenzen zu evaluieren? Maud, est-ce que c'est bon pour... Alors, disons la question non, concernant les compétences. Voilà, est-ce que vous pensez que cette multimodalité, elle va changer aussi la manière d'évaluer? Et si, est-ce que des paramètres existent déjà pour évaluer, pour objectivement évaluer? Est-ce que la personne travaille bien avec cette idée de multimodalité ou pas, la personne qui apprend?
Les rares essais qu'on essaie de faire, alors évidemment qu'on est plus sur des objets de savoir mais sur des compétences, donc l'évaluation passe uniquement par les compétences. Et puis, ce qu'on a essayé récemment de faire avec une collègue, c'est d'évaluer l'aptitude à la justification, c'est-à-dire que voilà, l'interprétation étant individuelle, on cherche à amener les étudiants ou les élèves à justifier ce qu'ils avancent. Et c'est dans la justification qu'on va aller évaluer ce qu'ils ont mobilisé des contenus transmis. Mais on n'en est qu'au début. C'est-à-dire que, voilà, on a aussi, dans la manière d'enseigner, passé complètement à l'enseignement explicite, où vraiment on verbalise toutes les compétences qu'on mobilise avec les élèves et avec une rétroaction systématique à la fin de chaque transmission. Voilà ce qu'on a fait, on visait telle compétence. On a même développé ce qu'on appelle les stratégies de compréhension, c'est-à-dire qu'on leur demande, ils ont un jeu de cartes, ce sont des stratégies de compréhension et ils doivent dire laquelle ils mobilisent. Enfin voilà. Donc on développe comme ça des petites pistes de matériel de compréhension, d'interprétation. Et puis l'évaluation, ben voilà, on n'en est qu'au début.
Ok, parfait. Also, on est ganz am Anfang. Edina, möchtest du was hinzufügen?
Ja, gerne. Also wie ich schon vorhin erwähnt habe, dieser Zugang, Sprachen zu lernen, eröffnet auch eine größere Perspektive, wie zum Beispiel die 21st Century Skills. Das heißt, dass man kreativ denken kann, kritisch denken kann, kreativ sein kann. Kreativität wurde auch von Philipp erwähnt. Man kann auch Linguistic Landscape beeinflussen. Man kann auch so ein Schoolscape beeinflussen, kreativ beeinflussen und auch fördert die Kommunikation, weil man eben über Linguistic Landscape erzählt, auch verschiedene Kommunikationsformen herausfindet und auch die Kollaboration, das heißt Zusammenarbeit, die Schüler, Schülerinnen arbeiten zusammen, sie erforschen zusammen diesen Quartier oder diesen Raum. Also es geht über die Sprachenlernen hinaus. Also es geht nicht nur um die korrekte Sprache zu erlernen, sondern die Sprache in ihrem Kontext zu erforschen, Sprache als soziale Praxis zu erforschen und zu verstehen und kritisch nachzufragen. Und Linguistic Landscape bietet auch ein wahnsinniges Potenzial dafür, weil es auch ein authentisches Material ist. Also es ist nicht nur ein Lehrmittel, sondern wirklich authentisch ist, verbunden mit der Lebenswelt der Schüler, Schülerinnen. Wenn man im Quartier ganz genau hinschaut, welche Sprachen finde ich hier? Welche Sprachen sind sichtbar? Standardsprache, Dialekt. In welchen Kontexten kommt Dialekt vor? Warum? Was ist der Zweck? Was möchte man damit bezwecken? Dann kann man wirklich sehr viele spannende Fragen mit den Schüler, Schülerinnen diskutieren.
Okay. Danke, Dina. Also, wir sind voll mit Möglichkeiten. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose par rapport à ce que les collègues ont dit ou en général sur les compétences?
Also, vielleicht, ich kann nicht zu den Kompetenzen oder dazu, wie man sie testet, kann ich wirklich nichts sagen. Was ich aber finde, ist, dass halt die Betrachtung der Linguistic Landscape vielleicht zu diesem Selbstverständnis beitragen kann, dass eben die Mehrsprachigkeit einfach da ist und dass es eben, dass andere Sprachen als die Erstsprache eben nicht nur im Unterricht existieren, sondern ganz einfach im Alltag präsent sind und zwar eigentlich fast immer irgendwie mindestens verschiedene Sprachen, verschiedene Varietäten da sind. Und das kann sicher zu einem Verständnis für die Mehrsprachigkeit als eigentlich als selbstverständliche Situation beitragen. Und denke, als Grundlage für das Erlernen einer Fremdsprache durchaus hilfreich sein, wenn man dieses Verständnis im Früh schaffen kann.
Daniela?
Oh lala, ja, es kommen schon wieder viele Gedanken. Ich denke, das Beste ist la politica dei piccoli passi, also eine Strategie mit kleinen Schritten, weil wir haben jetzt eben auch gesehen mit Aspasso con noi, wo eben diese Multimodalität präsent ist, die Mehrsprachigkeit, Linguistic Landscape und so weiter. Und die Lehrpersonen konzentrieren sich eben auf und auch auf Simulation, Repetition und dann haben wir gesagt, ja, wir versuchen jetzt wirklich auch in dem, was Sie jetzt als Fokus und Priorität setzen, auch die anderen Dimensionen che emergono, die hervorkommen, wenn man die Aktivitäten macht, auch funktioniert das nicht?
Ja, nicht mehr, aber mit dem hier geht's.
Okay. Dankeschön. Und dass man auch in den, sag man, kleineren Einheiten, wo eben vielleicht nur eine Simulation vorhanden ist und ein Dialog auch ohne Gestik, ohne so wiederergeben wird, was eigentlich da auch für Soft Skills und 21st Century Skills dabei sind oder welche. Ja, danke.
und eben die Lehrpersonen überzeugen zu können, sagen, da ist wirklich noch viel mehr da, als was ihr denkt, also mit den ganz kleinen Einheiten oder kleinen Unterrichtsaktionen. Und ja, und dann hoffen wir, dass das sich dann entwickelt.
Vielen Dank, Daniela. Und jetzt in kleinen Schritten kommen wir zu der Diskussion mit dem Publikum. Wir haben jetzt eine Viertelstunde für Fragen. Vielen Dank.
Merci beaucoup pour votre présentation. J'aurais en fait plein de questions à vous poser, mais il y en a une en tant que sociolinguiste qui me tracasse en fait. C'est que dans votre présentation du Linguistic Landscape, j'ai l'impression qu'on parle d'un paysage assez figé en fait. J'ai pas beaucoup entendu parler d'interaction aussi avec presque un peu plus avec la sémiologie en fait. J'ai presque plus senti l'idée d'interprétation. Vous avez quand même parlé un peu des gens qui lisent, des gens qui essayent d'interpréter, mais on n'a pas beaucoup parlé des gens qui écrivent, en fait, dans l'espace. Qui est-ce qui écrit ? Qui est-ce qui essaye de communiquer, en fait ? Et qu'est-ce qu'on fait avec ça dans un cours de langue ? Alors là, je vous pose la question, j'ai aucune idée, mais ça m'intéresserait de savoir qu'est-ce qu'on fait, en fait, de ces interactions ? Comment peut-être on essaye de les schématiser ? Comment on essaye de les utiliser en classe ? Et ça m'intrigue vraiment, en fait, de savoir... En fait, j'aime bien le Linguistic Landscape, mais c'est toujours cet aspect où je me dis, mais qui c'est qui écrit, en fait ? Ils veulent dire quoi ? Et puis, comment on quantifie ? Je ne sais pas, moi, le mot pizzeria, c'est un mot italien. Est-ce que ça va avoir un effet différent ? Est-ce qu'on va vraiment l'interpréter comme un mot italien ? J'en sais rien. Mais en fait, qui écrit à qui ? Dans quelle intention et avec... quelles intentions d'avoir quels effets peut-être, et quels effets indésirables, quels effets souhaités, j'en sais rien. Donc en fait un peu ma question c'est qu'est-ce qu'on fait des gens qui écrivent au niveau analytique et puis aussi au niveau didactique.
Je ne sais pas. Enfin voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que en prenant cette linguistique fonctionnelle, on est dans l'interaction. Donc on prend le sujet, voilà, peut-être pas celui qui écrit, mais en tout cas le récepteur. On part du récepteur, c'est le point de départ. Après, ben comme je suis un petit peu moins dans le linguistic landscape que dans la multimodalité, je comprends ce côté figé. Ouais, j'ai un peu de la peine dans le sens où les travaux que je mène sont plutôt dans une renégociation du sens permanente. Donc, on n'est pas du tout figé puisqu'il n'y a rien de stable. On est dans l'instabilité permanente, si je dois résumer. Donc là, c'est aussi pour ça que je me situe un petit peu. Je fais un petit pas de côté en étant vraiment dans cette sémiotique sociale, enfin, à l'anglo-saxonne. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ça.
Je pourrais peut-être répondre en partie en moins à la question de qui écrit. Ce que j'ai fait moi et ce que beaucoup d'autres ont aussi fait, c'est qu'on distingue deux catégories vraiment très, très générales d'auteurs. C'est d'une part ce qui est souvent appelé comme top-down. On peut discuter de cette dénomination, mais bon, ça c'est un peu ce qu'on utilise très souvent dans la recherche sur Linguistic Landscape. Donc la partie top-down du Linguistic Landscape qui serait produite par, en gros, par les autorités, et puis la partie bottom-up produite par tous les autres acteurs qui produisent de la langue, à l'occurrence écrite, dans l'espace public. Et ce qui a fait une grande partie de ma recherche, c'était la comparaison entre ces deux catégories, de voir est-ce qu'on trouve les mêmes taux de fréquence pour les mêmes langues dans les deux catégories, est-ce qu'on trouve la même quantité d'unités plurilingues dans les deux catégories, et comme ça on peut déjà comprendre un peu mieux les relations entre ceux qui écrivent, si on les considère comme appartenant à ces deux groupes. Après, pour la question de comment c'est lu, et comment c'est reçu, ça c'est à mon avis vraiment une question qui dépasse la recherche sur le Linguistic Landscape, que moi je comprends toujours comme un état de lieu qui peut servir de base pour les recherches qui suivent, pour après donc regarder ces résultats, regarder cette réalité par, avec les personnes qui s'y trouvent, qui interagissent. Donc c'est là, je pense, qu'on s'approche justement plus du thème de la multimodalité, de l'interaction. Moi, le linguistic landscape, la recherche de le linguistic landscape, je le comprends comme, comme une base pour mettre en relation avec d'autres approches. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
Je pense, Philippe, au début, c'était très clairement les producteurs qui étaient au centre, Ben Raphaël, Shoami et tout ça, tous ces travaux sur Israël, où c'était, on voulait comprendre, mais qui essaye de dominer symboliquement l'espace public, par quels moyens et pourquoi? Et je pense que Edina, elle a quand même évoqué justement qu'en en faisant des analyses de l'espace, des paysages linguistiques avec des apprenants, on peut travailler sur le plurilinguisme et sur les rapports de force et ce genre de choses. Je pense que Edina, c'est toi qui avais dit qu'on peut faire des analyses de ces rapports et de ce jeu entre les langues et les langues en contact. Je pense que c'est compatible, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que c'est les producteurs ne disparaissent pas complètement.
Edina, konntest du Raphael hören?
Wenig. Also,
okay.
Wenn du eine kurze Zusammenfassung machen würdest, okay. Wäre super.
Ja, also die Frage von Philipp war, wer produziert eigentlich diese Sprache, die wir dann beschreiben und interpretieren in diesen öffentlichen Räumen? Und Raphael, er hat gesagt, genau, dass diese Herstellerinnen, die sind eigentlich da. Also, dass du irgendwann in der Diskussion hast erwähnt, dass diese Hersteller da sind, oder habe ich das...
Ja, genau, dass Dina eigentlich angesprochen hat, dass man diese, auch eben die, sozusagen die soziologischen Verhältnisse unter den Sprachen rekonstruieren kann, indem man Linguistic Landscapes analysiert. So habe ich dich verstanden, Edina.
Genau, ja. Also eben, man kann dieses ganze Netzwerk von Linguistic Landscape anschauen. Wer sind die Produzierenden? Wer produziert dieses Zeichen und wer liest dieses Zeichen oder wie interpretiert man dieses Zeichen? Und dann habe ich auch gehört, diese Top-Down-Bottom-Up-Kategorisierung ist auch, wurde von Philipp erwähnt. Es gibt natürlich Zeichen, die von den Institutionen gesetzt werden, so die sind Top-Down-Zeichen und Bottom-Up-Zeichen. Es gibt sehr viele private Zeichen, die man überall sieht. Auch zum Beispiel Sticker, die sind private Zeichen. Es gibt bestimmte, also von SBB habe ich schon mal auch Stickers gesehen, aber da kann man auch schauen, was möchte man mit diesem Zeichen erreichen? Wen spreche ich mit diesem Zeichen an? Also da kann man wirklich nur innerhalb eines Zeichens kann man auch wirklich sehr vieles herausfinden oder was steckt hinter dem Zeichen? Welche Ideologien, welche Ziele? Wer hat das produziert, mit welchem Ziel und wie interpretieren wir das?
Danke, Dina. Jemand hier in der Table?
Ja, vielleicht noch einmal kurz eine Reaktion darauf. Also wir können dann natürlich schon versuchen, eben zu verstehen, wer hat es produziert und weshalb und für wen. Ob es dann aber wirklich so gelesen und wahrgenommen wird, das ist dann eine Frage, für die es dann wahrscheinlich andere Ansätze braucht, wo man dann wirklich, da wäre es interessant, das Projekt weiter zu verfolgen, was vorhin erwähnt wurde, wo man mit den Studierenden oder mit den Leuten, die an einem bestimmten Ort wohnen, sich dort regelmäßig aufhalten, diese dann bittet, die Zeichen zu erheben und zu erklären, die sie sehen, und das dann zu vergleichen mit den Ergebnissen, die wir aus der Forschung dazu bekommen haben, um dann zu sehen, ob sich dieses Verständnis ändert. Ich denke, es ist bei der Linguistik Landscape-Forschung eigentlich sehr stark auf die Autorschaft zentriert.
Mhm. Ja, also die ethnografische Forschung geht in, genau in diese Richtung, dass man auch Interviews mit den Produzierenden der Zeichen führt und auch mit Passantinnen und Passanten führt man auch Interviews und fragt über das Zeichen. Also ich denke, das ist jetzt auch ja, ein interessantes Gebiet geworden, dass man das Zeichen hinterfragt und versucht herauszufinden, wie ist das Zeichen entstanden.
Vielen Dank, Edina. Oui, il y a peut-être quelques questions encore.
Super. Vielen Dank für die sehr spannenden Beiträge. Ich habe mich gerade gefragt, jetzt wo Sie gesprochen haben über diese ethnografischen Methoden, um eben herauszufinden, warum denn jetzt eine Linguistic Landscape so aussieht, wie sie aussieht. Welche Methoden verwenden Sie denn in historischen Kontexten? Also für historische Linguistic Landscapes, wo Sie keine Interviews durchführen können.
Hey, Edina, hast du gehört?
Ja, über die ethnografische Methode,
ja,
oder?
Aber in einer diachronischen Perspektive, also historisches Linguistic Landscape oder sowas.
Ja, es gibt ein ganz spannende Monographie von Lola Pons Rodriguez. Sie hat die Linguistic Landscape von Sevilla untersucht. Das Buch wird selten zitiert, weil es auf Spanisch ist und Linguistic Landscape ist eigentlich sehr englisch geprägt. Und Lola Pons Rodriguez hat Sevilla vor 50, 60 Jahren verglichen mit der heutigen Linguistic Landscape und das ist auch eine vergleichende Studie. Ethnografisch, das ja, hat auch ethnografische Elemente, aber auch so sozusagen historische Elemente. Das heißt, wie entwickelt sich Linguistic Landscape durch die Zeit? Also wenn diese historischer Aspekt dazu kommt. Ich weiß nicht, ob ich die Frage beantwortet habe.
Er sagt ja.
Sie sagt ja. Ja, ja. Und also eben Archivarbeit. Also Aneta Pavlenko zum Beispiel hat zum Westen der Ukraine gearbeitet und hat dann mit Archivbildern in Lviv zum Beispiel gezeigt, wie sich der öffentliche Raum, auch eben die Sprachzeichen im öffentlichen Raum, sich über die Jahrzehnte im 20. Jahrhundert verändert. Aber man braucht Fotos oder irgendwelche visuellen Repräsentationen natürlich, ja.
Vielleicht auch Korrespondenz.
Ah, ja, ja, aha, klar, ja, ja.
Briefe,
ja.
Wie? Ja. Genau. Et quelqu'un veut ajouter quelque chose par rapport à cette question? Le mode? Ok, parfait.
Bon, je peux seulement dire que j'espère que ça va trouver la place dans l'école, parce que cette approche de plus de recherche, d'investigation, de se poser la question qu'est-ce qu'ils ont voulu dire pour ce que c'est les auteurs, les autrici.
Autrices. Moi, je l'ai dit, mais je ne sais pas ce que je veux dire.
Et les fruiteurs. Parce que dans les langues, dans le domaine des langues étrangères, il n'y a pas de place. Il y a un programme, il y a une méthode et personne ne se fait cette question, se pose cette question. Et aussi, il y a une question de... Mais même dans les autres matières scolaires. Et je trouve qu'il y a aussi un problème de ton. Beaucoup de didacticiens ou des enseignants me disent « j'ai pas le temps de faire ça, je suis intéressée, j'aimerais faire des interviews avec mes enfants, avec mes élèves, à quelqu'un qui a fait ça et ça, ou bien les graffitis qu'on voit sur les trains, quelque chose comme ça. » Mais ils n'ont pas le temps, ils ont une heure, 50 minutes de temps pour sa propre leçon. Et donc, après, c'est fini. Et puis, il n'y a pas le temps de faire un travail comme ça, même si on le désire
d'être plus présent sur les territoires, et savoir comme le lire, comme l'analyser, comme l'interpréter. Et on échange avec les copains, les copines de la classe ou de l'école. Voilà, c'est une problématique assez présente dans l'école. Et donc, moi, je l'espère, mais...
Alors, je pense qu'il y a plus de temps pour les questions, mais on pourra volontiers continuer cette discussion à l'apéro. Et donc, nous, on aimerait vous remercier beaucoup pour cette discussion, pour vos contributions. On a été aussi très multimodal ce soir. On est content de ça. Et voilà. Je pense que cette thématique, elle va, comme Edina, elle a dit, que c'est quelque chose qui se développe très rapidement. Donc, on sera content de savoir quels seront les développements de cette thématique. Wir möchten uns jetzt noch bei Ocean, Gashu und Muriel Lang für die Vorbereitung der Fragen für diese Diskussionsrunde. Wir bedanken uns bei Professor Bertele für die Koorganisation. Vielen Dank, Alicia, noch für die Co-Moderation. Vielen Dank an unsere Diskutantinnen. Vielen Dank an das Publikum. Und maintenant, vous êtes invités à l'apéro. Et vous pouvez aussi profiter du petit stand de Babylone qui vous attend dehors. Avant de nous laisser, rappelez-vous qu'il y aura une table ronde très proche de cette table ronde. Donc, ça sera déjà le 27 mars. Et la thématique concerne les Lehrmittel und Lehrmittelentwicklung. Voilà, donc merci beaucoup. Merci encore Edina pour avoir pris part à cette discussion, même si voilà, les circonstances n'étaient pas trop bonnes pour toi. Donc, gute Besserung noch.
Merci beaucoup, vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank
schön,
dir.
Mit euch mitzudiskutieren.
Vielen Dank dir. Danke, einen schönen Abend und gute Besserung. Vielen Dank an alle.
Die Diskussionsrunden aus Freiburg.
Die Table Ronde de Fribourg.
Fremdsprachendidaktik.
Didaktik des langues étrangères.